Bonjour à tous et merci d'être avec nous aussi nombreux pour assister à cette rencontre croisée entre Miguel Bonnefoy, que vous connaissez bien, et Aura Xilonen. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, Aura. Vous êtes mexicaine, vous avez 22 ans et nous vous avons découverte en France il y a un an et demi avec votre premier roman intitulé Gabacho, paru chez Liana Levy et magnifiquement traduit, il faut le signaler, par Julia Chardavoine. Alors, votre héros s'appelle Liborio, c'est un adolescent pauvre qui a quitté le Mexique en traversant le Rio Grande à la nage pour aller aux États-Unis. On n'entend pas bien ? Bon, d'accord. Donc, je disais, il a quitté le Mexique à la nage pour aller aux États-Unis. Et puis, au cours de ses pérégrinations, il est presque mort de chaud dans un désert. Et il a fini par arriver dans une ville du sud des États-Unis, une ville qui n'est pas nommée, mais on se doute qu'on est à peu près vers le Texas. Alors, cette histoire de Liborio, c'est l'histoire d'une émigration, mais c'est aussi l'histoire d'une transformation, d'un apprentissage qui va notamment passer par la transformation de la langue, car ce Liborio a un secret, il lit des livres en cachette, puisqu'il est employé dans une librairie hispanique dans cette petite ville des États-Unis. Alors, Gabacho, c'est un roman picaresque contemporain, hein, on pourrait le définir comme ça, nourri de multiples références littéraires, mais pas seulement. Littéraires, on peut penser à Cervantes, à Shakespeare, on peut aussi penser à des références cinématographiques, on peut penser au film Los Olvidados de Luis Buñuel, hein, avec ces histoires de gamins des rues. Et il faut préciser que vous vous destinez aussi à être cinéaste, puisque vous étudiez le cinéma à l'université de Puebla. Miguel Bonnefoy, je ne sais pas si on vous présente encore ici à Manosque. Rappelons que vous êtes franco-vénézuélien, votre père est chilien, votre mère est vénézuélienne. Vous avez passé votre enfance entre la France, le Portugal et le Venezuela. Et vous êtes l'auteur de deux romans écrits en français, Le Voyage d'Octavio et Sucre Noir, tous les deux parus chez Rivage. Alors, c'est une très bonne idée, je trouve, de vous réunir tous les deux. Il y a beaucoup de points communs, le travail sur la langue, le foisonnement des histoires, et puis aussi, je trouve, une manière de parler de sujets politiques par la fiction et par l'invention de la langue. On va peut-être commencer par vous, Aura, puisque les manosquins vous connaissent moins bien que Miguel Bonnefoy. Comment est né ce personnage de Liborio et, j'ai envie de dire, cette voix de Liborio, parce que c'est vraiment une voix que vous avez trouvée et une langue très, très singulière.
Bueno.
Ay. C'est Sonia
tardes.
Jean qui va vous traduire.
Ah, si. Buenas tardes a todos, gracias por escucharnos un momento y bueno, después de esa gran y muy buena explicación creo que ya no sé qué decirles porque estuvo muy, muy buena.
Bonsoir et merci à tous de nous écouter un petit moment. Elle est très contente et elle considère que l'explication était déjà très claire donc elle ne sait pas trop quoi dire d'autre par rapport à Liborio.
Y bueno, Liborio, pues es un personaje que surge de un montón de cosas, porque nací en una época tecnológica en la que cualquier información, cualquier cosa que yo necesite saber, pues está al alcance de la mano, ¿no? El celular. Entonces, Liborio nace de es un contexto en el que yo vivo, en el que la migración pues es muy fuerte. También tengo la suerte de haber nacido en una familia que le gusta leer, que le gusta la música. Entonces ellos me llevaron a crear esto. De repente vienen todas estas películas, como bien dijiste, otro tipo de literatura, también está internet. Entonces es como como una mezcla de todo. Y así surgió Liborio. Es un pequeño Frankenstein.
Liborio, effectivement, c'est un personnage qui surgit de différentes expériences. Elle nous explique qu'elle est née dans une époque technologique avancée et que du coup, elle a recours ou dans une époque où tout est à portée de main, finalement, aussi bien à travers la presse, les films, Internet, et que c'est ce contexte qui l'a aidée à créer aussi le personnage de Liborio. Et aussi parce qu'elle vit dans un contexte, dans une ville où la migration est très importante et très forte, très élevée. Et elle a aussi créé son personnage de Liborio grâce à sa famille qui aime beaucoup les arts, aussi bien la littérature, la musique, et qui lui ont appris énormément et qui l'ont guidée dans cette création du personnage de Liborio. C'est, pour elle, Liborio, c'est vraiment un mélange de tout ça. C'est un petit peu un Frank Einstein, comme elle a dit.
Parce que vous parliez en effet de votre famille, Aura. D'un côté, vous avez une mère professeure de lettres classiques, voilà, pour la formation un peu plus académique. Et puis de l'autre côté, il y a vos grands-parents. Cet argot de Liborio, il vient aussi de vos grands-parents?
Sí, pues sí, mi mamá era la correctora así de ortografía y pues toda mi familia en realidad me apoyó muchísimo para que yo sacara esta novela, porque claro, creo que cuando eres grande pues le preguntas al esposo, pero pues yo no tengo esposo, entonces eso, tenía mi familia conmigo y ellos fueron los primeros lectores, los que hicieron la corrección de la novela, pero de todo. Y pues sí, mi mamá efectivamente me apoyó en todo eso, en decirme como las raíces de cada palabra, porque creo que la curiosidad es, la curiosidad de niños que a veces perdemos con la edad, pues es importantísima, porque eso nos ayuda a aprender con H y sin H, o sea, aprender y bueno, más. Entonces, esa curiosidad es la que yo empleé para construir esta novela. Curiosidad por palabras, por llenarme de palabras que no se escuchan siempre, que ya no se escuchan, palabras de la abuela, palabras que a veces olvidamos con el tiempo y que nuestros niños pues ya desconocen.
Oui, donc sa maman, ça a été une des principales correctrices de son roman. En réalité, toute sa famille lui a apporté vraiment une aide précieuse. Donc, comme elle nous a dit, elle, normalement, son premier roman, on le fait lire à son conjoint. Mais dans son cas, bon, elle a pas de mari, donc c'est vraiment sa famille qui ont corrigé l'intégralité de son roman. Et sa maman, elle a beaucoup insisté aussi sur la recherche par rapport à la racine de chaque mot. Et Aura considère que c'est très important de maintenir et de garder la curiosité qu'ont les enfants, finalement, par rapport aux mots, de ne pas perdre ça, et que des fois, ça nous arrive justement de perdre cette curiosité vis-à-vis de l'étymologie des mots. Et elle aime beaucoup, elle considère qu'elle est encore très curieuse par rapport aux mots désuets, aux mots d'autres langues, à l'invention de mots. Voilà, c'est la curiosité qui lui permet d'écrire comme ça.
Cette invention dans la langue, on la retrouve chez vous, Miguel Bonnefoy. Alors, vous, c'est le français que vous avez choisi comme langue d'écriture, mais est-ce que vous vous retrouvez dans ce que dit Aura sur le maniement de la langue ?
Absolument. Et moi, j'ai énormément aimé le livre de Aura, que j'ai trouvé véritablement extraordinaire. En sortant d'ici, je vous conseille vivement d'y aller aveuglément pour lui demander une signature, parce que son livre est vraiment extraordinaire. Je trouve qu'il y a une belle dichotomie ou un beau contraste dans ce qu'elle est en train de dire, parce que oui, d'un côté, bien sûr que, comme moi, elle est née dans un monde dans lequel on a une facilité au niveau de l'information par rapport à Internet, et on peut, depuis la maison, avoir accès à n'importe quel champ lexical, à n'importe quelle vidéo, on peut voir tout ce qu'on veut, donc on est tenté de tout mettre dans le livre et d'être sûr qu'on ne fera aucune erreur, puisque de toute façon, on peut tout avoir. Et d'un autre côté, son livre n'est pas hétéroclite. Et ce n'est pas une sorte de bibliothèque étrange, comme ça, hybride, un monstre ou une sorte de créature mythologique dans lequel on aurait voulu tout mettre dans l'ardeur ou la fougue de la jeunesse. Au contraire, il y a un fil conducteur, il y a un fil d'Ariane, il y a une mélasse qui s'est fait, et il y a un vrai combat qui finalement s'entend bien dans un dialogue, comme dans une sorte de pont de papier, entre cette espèce de foisonnement d'Internet et l'intelligence d'une structure narrative littéraire. Et à l'intérieur, on trouve le livre de Aura. Donc à ce niveau-là, je vous conseille vivement d'y aller. Il y a même, dans cette recherche, à mon sens, du dictionnaire encyclopédique dans lequel on va aller fouiller dans l'archéologie de la langue pour essayer de trouver des étymologies, pour se permettre peut-être des mots désuets, des mots abandonnés, des mots d'hier pour les mettre dans la lumière violente de la modernité, en faire des mots de demain. Eh bien, il y a également une sorte de jeu qui se fait et qui n'est encore une fois pas un contraste mais une mélasse avec tous les néologismes qu'elle va inventer à l'intérieur du texte. Par exemple, moi, un mot qui m'avait beaucoup impressionné au niveau du texte, elle dit « Le personnage se leva, le corps était épais et son regard avait quelque chose de sublime, d'exceptionnel, de waouesque. Waouesque. De prendre une sorte d'onomatopée, de la transformer en adjectif, de le mettre entre deux virgules et de le faire cohabiter alors avec des mots qui ont peut-être 7 siècles et tout à coup elle le fait habiter avec un mot qui a un jour. Dans ce jeu-là, elle a vraiment réussi à créer une sorte de jus où il n'y a pas de la pulpe d'un côté et un mauvais liquide de l'autre, mais au contraire un beau breuvage.
Bueno, sí, es que en realidad lo que quería era que el libro fuera... No son solo golpes que Liborio anda dando en el ring, sino son golpes constantes contra el lenguaje y quería que fuera un puñetazo a la cara de cualquier lector. Entonces, es eso lo que yo traté, que se vuelva algo... Sí, una lucha interminable contra la cultura, contra el lenguaje, contra el lector, contra las letras, contra los escritores, contra la vida en general.
Ce qu'elle souhaite, c'est vraiment cette image de gros coup de poing, finalement, contre le langage, un gros coup de poing, une lutte interminable contre la vie, finalement, elle a terminé en disant ça, contre la vie. Et c'est vraiment cette image de coup de poing, c'est ce qu'elle a souhaité, je pense, dès la première page, notamment dès la première page du livre qu'elle a écrit.
En effet, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, Liborio est un petit adolescent gamin des rues, mais qui va devenir boxeur. Alors au départ, il commence à donner des coups aux gens qui lui cherchent des noises ou qui embêtent la fille dont il est amoureux. Et puis après, il va réellement monter sur le ring. Et en effet, ce motif de la boxe, on le retrouve dans la langue et on le retrouve dans la manière dont il combat finalement avec les livres, hein, parce que sa relation avec les livres n'est pas si simple au départ.
Ouais. pues sí, sí, Liborio se convierte en un campeón de vida porque pues él en otro país de repente tiene lo que México no le otorgó, pero pues porque así le pasa a muchos niños y hay millones de niños migrantes que están en la situación de Liborio, por eso Liborio el nombre no, por eso Liborio no tiene nombre hasta la mitad de la novela, porque como él hay miles y yo creo que sí, que efectivamente es una lucha de supervivencia.
Liborio, finalement, c'est un champion de vie, parce que avec son arrivée aux États-Unis, finalement, il obtient d'autres choses qu'il n'avait pas finalement obtenues au Mexique. Et pour elle, c'est Liborio, il n'a pas de nom jusqu'à presque la moitié du roman, parce que finalement, il représente plein d'autres personnes qui sont exactement dans le même cas que Liborio. Et pour elle, c'est la représentation d'une lutte pour la survie.
Pero el tema principal de la novela no es la migración, no es el Vox. Para mí, el tema fundamental es la esperanza que tiene un niño migrante y es toda la esperanza que todos los demás niños del mundo deberían tener.
Pour elle, le thème principal de son roman, ce n'est pas la migration, ce n'est pas la boxe non plus, c'est plutôt l'espoir que tout migrant devrait pouvoir avoir.
Oui, non, c'est exactement ça, bien entendu, c'est l'espoir. Et à ce compte, bien entendu, c'est centré au-delà de la migration, même si ça me semble quand même fondamental dans le livre, et c'est une forme de littérature engagée qu'elle est en train de faire, si bien qu'on parlait tout à l'heure, puisqu'on était en train de déjeuner ensemble, elle était en train de me dire que peut-être, avec le succès du livre, elle avait comme ça la tentation d'écrire le deuxième, écrire comme la suite, et peut-être il y aurait là une réflexion encore plus complexe sur qui sont les gentils, qui sont les méchants, quels sont les murs qui se dressent, et où sont les porosités entre ceux qui arrivent et ceux qui reçoivent. Et il y a également quelque chose, et moi j'ai envie de lui poser même une question, si tu me permets, Sophie, par rapport au dialogue, comment elle a travaillé les dialogues, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a comme plus vraiment l'habitude, ou du moins c'est ce que j'observe humblement, que dans les livres il y a peu de dialogue, on a peur du dialogue. À l'époque, je relisais par exemple Joseph Kessel, dans lequel on retrouve énormément de dialogue, ou dans Romain Gary on peut retrouver énormément de dialogue, ou dans Faulkner on peut retrouver énormément de dialogue, et de plus en plus j'ai observé qu'on va passer par le discours indirect, parce que justement le dialogue ça fait comme ça, peut-être poussiéreux, épineux, et là j'ai retrouvé qu'il y avait une fraîcheur dans les dialogues, si bien qu'on a l'impression que le personnage, non seulement il est en train de parler, il est en train de penser, mais lorsqu'on va tendre le doigt sur la feuille, ce n'est pas sur du papier et de l'encre qu'on tombe, mais on touche de la peau. Alors du coup, je suis curieux de savoir comment elle travaille les dialogues. El diálogo, ¿sabes cómo trabajas los diálogos? Pues normalmente ahorita uno utiliza solamente el discurso indirecto,
sí, claro.
Pero tú utilizas mucho discurso directo y quería saber cómo lo veías, quizás con sí. Lo del cine y eso.
Sí, en realidad, bueno, los diálogos es lo que más trabajo me costó a mí hacer, porque claro, yo crecí en este mundo donde escribimos en mensajes todo. Entonces, en el libro no hay celulares, no hay computadoras, porque sí quería alejar a los personajes, a volverlos más presentes en su realidad y con las personas con las que tienen contacto. Entonces, eso quería, que hubiera una presencia total del personaje, tanto mentalmente como oralmente, y los diálogos, bueno, eso fue... Creo que me tardaba a veces un día para un solo diálogo y lo pensaba muchas veces mientras iba a la escuela, mientras me bañaba. Bueno, era difícil porque sí quería convertir la vulgaridad en algo sumamente estético. Entonces, eso.
Oui, là il y a un autre en effet contraste qui finalement n'est pas un contraste. Ah, claro.
Tout le monde ne parle pas espagnol, Miguel.
Es que parecemos ratones porque está todo muy rápido aquí, pero perdone.
Donc les dialogues pour elle, ça a été son travail, ça a été sa tâche la plus difficile. Elle y a passé vraiment énormément de temps, elle y pensait beaucoup, elle passait même parfois un jour entier pour la rédaction d'un seul dialogue. Et dans son livre, ce qui était vraiment important pour elle, c'était justement d'éloigner ses personnages de la nouvelle technologie, de l'influence d'Internet, du téléphone, etc., qu'ils soient totalement, justement, présents dans le roman, vraiment présents mentalement et physiquement. Et ça, elle a pu le faire à travers les dialogues.
Et il faut préciser la structure du livre. Il y a une alternance de deux voix de Liborio, une voix vraiment au présent qui décrit l'action, et puis une voix plus mentale, hein. Écrite en italique.
Sí, bueno, la estructura en realidad fue como, yo la escribí como una película en mi cabeza, en realidad eso fue, es muy visual porque yo amo el cine y quiero dedicarme a hacer cine, pero pues esta es la forma más barata de hacerlo y pues al final la estructura se volvió eso, una edición de video.
Oui, du coup la structure, elle l'a vraiment pensé comme si c'était un film. Parce que de toute manière, elle adore le cinéma, c'est ce qu'elle étudie aussi actuellement. Et donc, elle a fait une structure très visuelle, mais c'était plus facile pour elle, en tout cas moins cher pour elle, de faire un livre qu'actuellement de faire un film.
Miguel, quand vous écrivez, vous pensez visuellement de la même manière? Parce que le début, par exemple, de votre roman Sucre Noir, c'est un film, c'est un film d'aventure. Hein. C'est Pirates des Caraïbes perchés à la cime des arbres. Parce que c'est le naufrage, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est le naufrage d'un bateau de pirates, non pas en pleine mer, mais sur la cime des arbres, en pleine forêt.
Oui, c'est tout à fait ça. Et en effet, moi, je n'ai rien inventé. Lorsqu'on voit le film Fitzcarraldo, on retrouve déjà, non, quand ils ont décidé de construire un opéra au milieu de la forêt amazonienne de Manaus, eh bien, tu as cette scène avec ce bateau qui, tout à coup, est tiré par 500 indigènes avec des rondins comme ça qui montent une montagne et qui, tout à coup, se retrouvent là-haut. Et juste cette image avec Fitzcarraldo qui observe ça m'avait semblé tellement fascinante que je m'étais dit pourquoi ne pas commencer avec une image qui soit forte. Après, en effet, moi, pour ma part, je n'ai pas étudié le cinéma comme Aura, qui, elle, pour elle, c'est vraiment une école depuis le début. Et donc, elle a commencé par le cinéma, peut-être passé par l'écriture, mais elle a une aspiration d'aller vers le cinéma, si bien qu'il y a même déjà des conversations pour des adaptations cinématographiques pour son livre, parce qu'en effet, il a quelque chose qui peut être presque découpé comme un storyboard, alors que moi, pour ma part, je vais me permettre des passages peut-être plus lyriques, puisque je viens des lettres, et donc je vais aller chercher davantage au niveau de la langue, me permettre peut-être des ellipses, et des choses un peu fantastiques, un peu surnaturelles, qui sont beaucoup plus difficiles peut-être de faire passer tout à coup au cinéma, et jouer davantage sur la lenteur, la patience de la lecture, plus que dans la rapidité des images, comme Aura le fait si bien. Donc à ce compte, il y a peut-être une légère différence, même si elle comme moi, eh bien, on est tous les deux des enfants du cinéma, non ? Comme Camus disait si bien, les terrains de football et les tréteaux des théâtres ont toujours été et resteront toujours mes universités. Eh bien, probablement, alors, nous, on pourrait dire que les planches des correspondances de Manosque resteront nos universités et le cinéma. Donc, je pense que, bien entendu, d'une certaine manière, on a une écriture qui est différente, mais tous les deux, on tend vers une image immédiate qui peut se former comme ça, de manière invisible, secrète, mystérieuse, dans le cœur du lecteur.
Il me semble qu'un point commun assez fort entre vos deux écritures, c'est le fait de réussir à dire des choses politiques, à dire des choses sur la situation contemporaine, la situation des migrants mexicains chez Aura, et puis chez vous, ce qui se passe au Venezuela avec cette question du pétrole et des étrangers qui viennent piller les ressources du pays. Tous les deux, par des biais assez différents, mais vous arrivez à le faire passer de manière détournée dans la fiction.
Absolument, et à ce compte, je suis curieux de voir comment Aura le voit. Encore une fois, on a peut-être une différence de traitement, dans le sens où moi, je vais davantage passer par l'allégorie, passer par la métaphore, passer par la fable, passer par la parabole, comme ça, par l'hypotypose, pour essayer de parler de la réalité, du plomb de la réalité, en passant par l'or de la fiction, en me permettant tout à coup d'en faire des images un peu transposées et de me dire si vous lisez cette fable, eh bien peut-être vous pouvez y voir des ficelles de la réalité, mais sans nommer un ministre, sans nommer un président, sans nommer une époque, sans nommer même un pays ou une région, peut-être pour ne pas enfermer le texte dans une temporalité et dans une géographie, mais au contraire pour faire comprendre que c'est un problème qui est commun, qui n'a pas de frontières et qui, hélas, n'est le privilège d'aucune nation. Et Aura, pour sa part, et du coup je suis vraiment curieux de voir, elle aussi, elle travaille dans une forme de littérature engagée, mais qui peut-être est davantage explicite avec par exemple tous les passages où il est en train de passer la frontière, et ce sont des récits enchâssés, puisque c'est une sorte de tresse qu'elle fait dans son livre, et dans lequel on sent vraiment la sueur, le sang, la peur, la frayeur, la difficulté, la violence de la migration.
Aura, comment avez-vous travaillé précisément ces parties-là? Est-ce que vous avez recueilli des récits? Comment vous êtes-vous documenté?
Ah, bueno, sí. Pues en realidad es como el estado en el que yo vivo, ¿no? Es porque vivo en México y estamos llenos de todos estos temas que de repente se tornan muy violentos, muy feos, muy fuertes, pero existe cierta normalización que las personas estamos haciendo, porque a un niño de 8 años ya no le importa, no es que no le importe, no le molesta que hayan asesinado a una persona a 3 calles de su casa, porque se está tornando normal tanta violencia. Y creo que los niños que están creciendo, pues de repente va a haber ya no van a diferenciar entre el bien y el mal, porque sí, estamos en esa actualidad, esa es nuestra circunstancia. A pesar de todas las cosas buenas que tiene México, de repente sí hay vericuetos ahí que en donde terminan en hoyos.
Effectivement, elle dit que l'état dans lequel elle vit, évidemment, il traite des sujets d'actualité très violents, mais elle insiste sur le fait qu'il y a cette normalisation qui se met petit à petit en place. Et c'est quelque chose d'assez effrayant. Elle prend l'exemple d'un petit garçon, d'un enfant de 8 ans qui peut vivre une scène d'assassinat, mais que pour lui, ça va devenir quelque chose de presque normal. Et donc, du coup, elle pense que les enfants qui grandissent dans cet état actuel du Mexique, ça devient de plus en plus difficile de faire cette différence entre le bien et le mal qui peut exister au sein de son pays. Malgré tout, elle dit qu'il se passe aussi énormément de très belles choses au Mexique, évidemment.
L'état dont vous parlez et où vous vivez, c'est l'état de Puebla, et c'est un état dans lequel duquel les gens partent beaucoup. Hein, les hommes s'en vont et il reste les femmes et les enfants.
Sí, es el estado que con mayor flujo de migración de todo el país. De hecho, estábamos con, bueno, lo de Nueva York y Puebla York, no sé si lo conocen, pero pues es que en Nueva York hay muchos, muchos poblanos. De repente hay pueblitos en los que efectivamente solo viven mujeres porque los hombres pues están del otro lado generando ingresos para mandar a México y sí, para sacar a los niños adelante, para darles de comer, porque eso es lo que la pobreza es, pues somos la mayoría allá. Entonces, sí, siempre estás conociendo gente que se fue, gente que no va a volver, gente que se queda en el desierto, enterrada porque no lo logró, pero los que están allá, pues al final, de cierta forma, por más fea que sea, pues lograron llegar. Entonces tiene algo, pues es vida, ¿no? Lo que está allá, los que llegaron tienen la vida, no la perdieron intentándolo.
Effectivement, à Puebla, c'est l'État qui a le flux migratoire le plus important. Et donc, elle fait ce jeu de mots entre Puebla et New York. Et donc, elle dit Puebla York pour dire que finalement, il y a énormément de Mexicains qui ont migré du coup à New York. Effectivement, dans l'État de Puebla, c'est principalement les femmes et les enfants qui sont restés et les hommes qui ont migré. Et les migrants qui ont réussi à arriver aux États-Unis sont ceux qui permettent de subvenir aux besoins de la famille qui est restée au Mexique. Et elle parle de ces gens qui, donc ces migrants qui partent, certains qui meurent en chemin, certains qui reviennent aussi. Et il y a du coup ceux aussi qui ont réussi à s'installer et à créer une vie aussi aux États-Unis.
On parlait tout à l'heure, Miguel, avant cette rencontre, de, de la différence, hein, malgré tout, entre le Mexique et le Venezuela. Les réalités sont absolument différentes, et notamment sur cette question de l'émigration. Alors aujourd'hui, depuis 2015, le Venezuela connaît une grosse vague d'émigration, mais ce n'est pas du tout le même type d'émigration, c'est plutôt la classe moyenne, des gens aisés qui s'en vont suite à la crise économique, et la réalité que vous décrivez n'est pas du tout la même.
Exacto. C'est toujours difficile dans une rencontre littéraire de se mettre à parler de politique, et moi je ne suis ni économiste ni politologue, alors je me sens souvent un peu décalé par rapport à ça. Mais en effet, si on va parler des différentes migrations vénézuéliennes, il faut comprendre que le Venezuela a toujours d'une certaine manière été à contre-courant en Amérique latine. Au moment où toute l'Amérique latine sévissait sous des dictatures dans les années 70, le Venezuela était un des seuls pays qui avait des démocraties relativement stables, qui était dans une sorte de boom pétrolier tel qu'il était un des seuls pays qui signait des traités démocratiques et qui était comme une île dans laquelle, moi je pense que le Venezuela dans les années 60, 70, 80, on a reçu absolument tout le monde. On a reçu même le chat du voisin. Et notre pays, d'une certaine manière, s'est constitué de l'accueil de tous ces immigrés qui, tout à coup, trouvaient du travail parce qu'on était dans un tel niveau économique, une telle croissance, un tel libéralisme, un tel capitalisme qui faisait alors qu'il y avait comme ça du travail par terre, partout. Il y a eu, bien entendu, face à cet excès, de la corruption, puisque la corruption n'est que le résultat d'un excès. Et face à la corruption, eh bien, tout à coup, il y a eu des soulèvements populaires. Face aux soulèvements populaires, il y a eu un homme qui s'est dressé pour essayer d'être une sorte de porte-parole, une sorte de voix, tout ça, et ça a été Hugo Chavez. Et à partir de là, il y a eu donc la prison pendant 7-8 ans, pour ceux qui connaissent l'histoire vénézuélienne, et puis lorsqu'il est sorti de la prison, eh bien, il a eu des élections démocratiques, et il a gagné, mais il a balayé les élections, parce que tout le peuple était derrière lui. Tout à coup, commencent alors les années de révolution. Et encore une fois, les Vénézuéliens ne bougent pas. Le monde vient à eux, ou du moins ceux qui s'intéressent. Moi, j'ai voulu participer à ce processus révolutionnaire. Je suis parti au Venezuela pendant longtemps pour travailler là. Et puis petit à petit, eh bien, on a commencé à y voir, puisqu'il y avait de l'excès, eh bien, des corruptions. Curieusement, on a commencé à reproduire ce qu'autrefois on avait combattu. Et puis, les fissures, les affres, les blessures, les plaies. Et les princes légitimes de la 4e République qui demandaient de pouvoir revenir pour retrouver le pays comme il était hier. Alors, en effet, il y a eu d'abord les personnes avec une double nationalité qui pouvaient, avec un deuxième passeport, partir n'importe où dans le monde avec une autre langue et donc de faire une migration. Mais c'est des migrations qui n'ont absolument rien à voir avec les migrations mexicaines. Ce sont des migrations qui sont qualifiées. Ce sont des migrations de bourgeoisie qui partent à Miami. On disait de Puebla York, bueno, la mitad de Miami es venezolana, la mitad de Miami es maracucha. La moitié de Miami est de Maracaibo, du Venezuela, dans lequel ça a été complètement peuplé. Et puis maintenant, avec les problèmes de pénurie, avec les problèmes de délinquance, avec les problèmes d'hyperinflation qu'il y a au Venezuela, a commencé une autre migration, qui a été l'émigration justement des gens qui avaient autrefois applaudi la révolution bolivarienne. Donc, c'est toujours difficile pour moi, et je vous parle très honnêtement et très sincèrement, et par rapport à cette littérature engagée, moi je me pose tous les jours la question de quoi ? Se mettre alors à critiquer quelque chose que moi j'ai défendu hier ? Bien sûr que les choses ont été différentes, elles ont changé, alors on peut commencer à se battre pour ça. Mais tout à coup, il y a dans mon cœur une sorte de lutte, une sorte de combat. Parce que d'une certaine manière, je vois comment le pays souffre. Je vois comment toutes mes amies femmes, ont les cheveux courts. Parce qu'elles vendent leurs cheveux pour avoir un petit peu d'argent pour pouvoir payer la traversée. Ça, c'est pas la révolution. Et d'un autre côté, il y a qui aux portes ? Les hommes d'hier, qui avaient fait exactement la même chose et qui à aucun moment n'ont décidé de semer le pétrole pour pouvoir travailler leurs terres, pour pouvoir créer des productions nationales, sinon au contraire d'aller s'acheter des grandes maisons, des masures et des yachts dans le monde entier. Alors les amis, c'est une affaire entre la peste et le choléra. Moi, j'essaye comme je peux, non pas de copier la réalité, mais de l'exprimer. Alors, je me donne le luxe de passer par la littérature en racontant des histoires vénézuéliennes pour plutôt pointer la rose plutôt que l'épine, la lumière plutôt que l'obscurité, de pointer le chemin plutôt que l'embûche.
Et c'est aussi ce que vous faites, Aura, avec ce livre Gabacho. Est-ce que vous diriez que vous appartenez à une génération de jeunes Mexicains qui se révoltent, qui disent, voilà, on vit dans un beau pays, il faut avoir la tête haute, il faut se relever, notamment face aux Américains. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience dans votre génération ?
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, lo veo con mis compañeros, con esta generación en la que nací, que ahora ya no se rigen por un partido político izquierda o derecha. Ahora nosotros vemos como, bueno, están los de arriba, que son los que tienen un montón de dinero, que son poquitos, y estamos todos los de abajo, que ahora debemos empezar a salir, ¿no? Entonces, creo que todos los chicos de mi edad hemos estado en marchas desde 2006 con nuestros papás, con nuestros abuelos. Ellos ya marcharon, ahora nos toca a nosotros. Son marchas pacíficas para intentar un cambio en el gobierno. Pero no se había dado hasta apenas las elecciones pasadas, pues por primera vez en la historia gana el partido político Morena, que es de izquierda, y entonces creemos que este puede ser el primer paso, un paso izquierdo, para generar este cambio. Y no va a ser ahorita, no va a ser en 6 años, tal vez nos tome 20, 25 años, porque debe ser un cambio ideológico, un cambio cultural que todos debemos tener. Entonces, adelante. Que sí, que somos chicos que nos movemos, que queremos ya salir de tanta corrupción, de tanta violencia, que estamos hartos, el pueblo está harto.
Oui, elle considère que elle voit de toute manière autour d'elle avec ses amis que finalement ils s'attachent plus vraiment à un parti politique, ni de gauche ni de droite, mais elle sent bien en tout cas ce mouvement de se lever, elle parle de cette différence très importante qu'elle constate dans son pays entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, ceux d'en haut qui ont énormément d'argent et ceux d'en bas, donc du coup le peuple qui galère. Et depuis 2006, elle parle de ces marches pacifiques, de ces manifestations pacifiques qui se sont faites en famille et qu'il y en a de plus en plus. Et depuis aussi l'arrivée au pouvoir de la gauche, elle pense que c'est peut-être ce premier pas vers un changement qui ne va pas se faire tout de suite, qui ne va pas avoir lieu tout de suite, mais qui va arriver, ça va être parce qu'il faut toutes ces années pour pouvoir créer ce changement au niveau idéologique. Mais elle considère vraiment que sa génération, oui, ce sont des jeunes qui se bougent finalement et qui ont envie de s'en sortir, qui veulent surtout sortir de toute cette corruption.
On a fait un assez long détour par la politique. On va peut-être revenir à des questions plus littéraires. J'aimerais qu'on entende cette langue si singulière de Gabacho. Est-ce que, Sonia, vous voulez bien lire le début du roman d'Aura pour qu'on entende vraiment comment ça sonne ? Alors c'est Miguel qui va lire.
Donc le texte est original, est en hébreu, donc ça dérange personne dans la salle. Oui. Et donc, pendant qu'ils étaient là, ces crevards, à courir après la gisquette, à la harceler, à lui crier des cochonneries, je me suis dit que si je les défonçais tous, ces cons de latinos, je pourrais peut-être changer de vie. Après tout, je suis né mort, et franchement, j'ai peur de rien. Je l'ai toujours su, et je me suis dit que j'en aurais la preuve en explosant les dents du type qui était en train de faire son numéro à la gisquette. Elle disait pas un mot. Elle guettait l'arrivée du bus au bout de la rue, comme ça, toute mal à l'aise. Et encore plus quand ce fils de pute lui a palpé le cul avec ses doigts mycosiques. J'ai tout de suite lâché mon poste au bookstore où je travaille. Ça vibrait autour de moi et j'ai foncé lui coller mon poing. dans la gueule. Au fond, qu'est-ce que j'avais à perdre, vu que j'ai jamais rien eu? Je le prends par derrière, ce guignol, je lui fracasse la cheville, et lui, il se plie en deux, comme ça, au ralenti, comme une bestiole qui glisse le long d'une vitre un jour de pluie, puis je lui fous une droite monumentale juste derrière la tronche, là, de toutes mes forces.
Définitivement, ça suena más bonito en francés.
Non.
Donc elle préfère en français. Elle
non,
trouve
non,
ça
non,
plus
non,
joli.
Non, non, elle dit ça.
Justement, il faut vraiment saluer, je le rappelais tout à l'heure, le travail de votre traductrice, Julia Chardavoine. Vous l'avez laissée extrêmement libre. Vous lui avez dit, mais tu es presque le co-auteur de ce livre, qui a d'ailleurs été traduit en d'autres langues. Et c'est intéressant pour nous de savoir qu'elle est allée rechercher, par exemple dans San Antonio, par exemple dans Raymond Queneau, dans des auteurs qui inventent des choses, dans des auteurs qui manient l'argot. Voilà, elle est allée chercher dans des références typiquement françaises. Mais est-ce que vous pouvez parler de cette liberté que vous laissez à vos traducteurs?
Bueno, sí, a todos les dije que en realidad yo que no debían poner exactamente el, o sea, no es una copia de libro en español, porque ahí creo que no hubiera tenido esta belleza del lenguaje francés o del lenguaje holandés o del lenguaje italiano, porque entonces ellos solo estarían, sí, haciendo una copia, y yo no le veo a eso un fruto bonito, ¿saben? Creo que les dije a cada traductor que en realidad ellos, podía explicarles las palabras sin problema, pero en realidad ni siquiera yo a veces sé los significados, porque son palabras que de repente inventé. Entonces el significado no es uno específico, es el que cada lector quiera darle. Y cada traductor tuvo que traer sus raíces y crear nuevas palabras con raíces francesas, inglesas, sí, polacas. Entonces, sí, es una libertad que yo deposité en ellos, una confianza total en la que veo los resultados, porque todos dicen que es genial la traducción. Entonces yo con eso pues soy totalmente feliz.
Certaines insultes du libraire sont inventées, c'est ce que dit Miguel.
Exactement, oui, le libraire, du coup, il travaille dans un libraire, et en effet, le libraire, enfin, elle a eu l'intelligence de probablement décrire, de dresser le portrait du libraire le plus insultant et le plus grossier du monde. Et un homme donc qui est entouré de poésie passe tout le livre, mais peut-être 400 pages, à insulter le pauvre Livorio. Et en effet, les insultes, moi, je ne les avais jamais entendues. Enfin, vous allez voir, c'est des choses complètement folles. Je pense que ça doit être des néologismes de Aura.
On va laisser Sonia traduire.
Merci. Du coup, elle dit que... Elle a guidé ses traducteurs en leur disant de surtout ne pas faire un copier-coller et de ne pas mettre exactement les mêmes mots, parce que justement elle leur a vraiment donné une confiance totale, et elle voit que le résultat à travers la beauté du langage n'est pas la même et est propre à chaque culture, finalement à chaque traduction qui ont été faites. Elle dit qu'évidemment elle pouvait apporter des explications, et elle l'a fait d'ailleurs. Elle m'a expliqué qu'elle l'avait déjà fait. Elle peut apporter des explications sur certains mots, certaines expressions, mais en fait il y a aussi des mots qu'elle a inventés et qu'elle souhaite aussi que le traducteur puisse s'approprier en fait ce langage et puisse lui aussi inventer des mots en fonction du contexte et aussi de sa propre culture. Donc elle a vraiment laissé une confiance totale à sa traductrice Julia Chardavoine, et elle est très contente finalement du résultat, et elle le constate parce que beaucoup de personnes lui ont effectivement parlé de la qualité de la traduction.
Miguel Bonnefoy, vous parlez les deux langues, vous avez choisi donc le français comme langue d'écriture, et vos romans vont maintenant être traduits en espagnol.
Oui, alors en effet, oui, c'est ça. Et c'est toujours intéressant de voir justement comment sont les jeux de traduction. C'est-à-dire que, et on en parlait justement avec Aura tout à l'heure, cette idée que lorsque on est traduit en espagnol, eh bien, soit on est traduit en un espagnol latino-américain, soit on est traduit par un espagnol d'Espagne. Et curieusement, moi j'ai été traduit par une vénézuélienne d'abord, et lorsqu'on a eu le texte en vénézuélien, donc d'une certaine manière dans un espagnol qui a une saveur tropicale comme ça, avec certaines petites nuances vénézuéliennes, avec des proverbes et des expressions qui sont lexicalisées au Venezuela, et bien aussitôt lorsque l'Espagne a décidé d'acheter le texte, ils ont décidé, figurez-vous, de castillaniser le texte, d'hispaniser le texte. Et on en parlé justement avec Aura, qui elle avait écrit son livre donc en espagnol naturellement, en espagnol du Mexique, avec tout l'argot du Mexique, et peut-être même un peu régional de Puebla, avec certains mots, etc. Et lorsque l'Espagne s'était intéressée au texte, avait dit oui, donc nous allons vous envoyer le mail du traducteur. Elle avait dit, mais comment ça le traducteur, si on est en train de parler de la même langue? Et bon, il juge en effet qu'il faut faire un travail comme ça. Donc voilà, c'était toujours intéressant de se rendre compte comment sont les choses. Et moi, pour ma part, j'ai une petite anecdote, mais je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Mais j'ai pas du tout envie de manger le temps de parole. Mais bueno, peut-être ça peut vous mettre en illustrer assez bien le propos. Moi, j'avais écrit Octavio, le premier roman. Octavio rentra chez lui en passant par les chemins verts. Et du coup, Camino Verde se dit au Venezuela pour dire non pas passer par ton chemin normal d'origine, mais passer par des chemins de traverse. On dit pasar por los caminos verdes. Ça vient de l'époque où les Colombiens passaient au Venezuela par la sierra, par la montagne. Donc, moi, je l'écris en français en le traduisant dans ma tête. Octavio passa par des chemins verts pour rentrer chez lui. Lorsque la traductrice vénézuélienne, elle, a traduit le texte, elle a compris Camino Verde, donc elle a publié par Camino Verde. Et lorsqu'on l'a envoyé en Espagne, eh bien, l'éditeur espagnol, qui lui ne comprend pas Camino Verde, puisqu'il est espagnol d'Espagne, il demande qu'est-ce que c'est, on lui explique et dit « Ah, un raccourci ». Octavio passa par des raccourcis pour rentrer chez lui. Et il envoie la traduction au Venezuela. Et la traductrice vénézuélienne lui répond un mail, qu'elle me met en copie, et c'est pour ça que je sais la faire, en lui disant « Monsieur, 5 siècles après la conquête espagnole, vous êtes encore en train de raccourcir notre langue ». Et venir coloniser notre langue. Nous, on vous propose une langue de chemin vert, une langue de mangue, une langue de brousse, une langue de liane. Et vous, vous venez avec vos places, avec vos cathédrales, avec vos armements, avec vos croisades, c'est ça, avec votre royauté. Et tout à coup, une sorte de dispute bilatérale s'est créée entre deux pays dans lesquels il m'a envoyé les mails et il me disait « Qui des deux a raison ?» il me demandait. Et je dois avouer avec beaucoup d'humilité que je ne sais pas qui a raison. C'est toutefois curieux de se rendre compte qu'il y a certaines langues, comme l'espagnol, qui a réussi à se ramifier d'une telle manière, comme peu de langues dans l'histoire ont réussi à se ramifier, qu'aujourd'hui, à l'intérieur de la même langue, eh bien, il faut aller chercher sur certains détails.
Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est que l'impérialisme linguistique, il n'est pas seulement de l'anglais conquérant, mais ça peut aussi être à l'intérieur de l'espagnol.
Exactement. Ça s'appelle, comme tu dis, un impérialisme. Mmh. Pire encore, ça s'appelle une hégémonie linguistique de la part peut-être de l'Espagne, mais qui n'est pas écrasante. C'est-à-dire que, bien entendu, que les auteurs latino-américains survivent sans problème, mais l'hégémonie va plus loin. Si vous me posez la question, du coup, je me permets même d'aller, de tirer le bouchon plus loin. J'étais en Colombie il y a à peu près 3 ou 4 mois pour aller faire des rencontres littéraires et on m'a mis à la même table d'un très très beau poète qui s'appelle Octavio Correa, qui lui vient de Manizales, non, de la ville de Manizales en Colombie et qui est le poète de Manizales depuis 30 ans, 35 ans. On est donc en train de parler, etc. Et il me dit, tu peux imaginer que moi, j'ai passé 35 ans à publier dans cette ville et personne ne m'a même regardé, même quand je rentre chez moi, ma femme sait à peine qui je suis. Cependant, j'ai gagné un petit prix en Espagne. On m'a donc invité à passer une semaine en Espagne pour faire 3-4 villes. J'ai fait une sorte de petite tournée. Et lorsque je suis rentré dans mon pays, il y avait tous les journaux qui parlaient de moi. Tout le monde m'attendait en criant au prodige et en disant « Voilà, l'enfant roi nous revient au pays ». Il disait « Encore aujourd'hui, on doit, dans notre propre pays, dans notre propre village, passer par l'Espagne, être applaudi par l'Espagne pour qu'on vienne te regarder chez toi. On a encore un complexe de néocolonialisme, de se dire qu'on attend que l'Europe nous applaudisse pour ensuite pouvoir rentrer à la maison en disant « Oui, vous voyez, Madrid a dit oui. Ah, bah alors si Madrid dit oui, donc tout va bien. » Et c'est incroyable de se rendre compte comment on ne peut pas encore, en tant que peuple frère dans un même continent, se regarder entre nous, s'applaudir entre nous et ne pas sans cesse devoir traverser des océans pour pouvoir avoir les gloires locales.
Aura, est-ce que vous voulez réagir à ce, que, à ce qu'a dit Miguel sur cette question de l'impérialisme linguistique ?
Es que no creo que pueda yo responder a eso porque pues todo tiene razón y de repente en México también pasa lo mismo pero debes pasar por Estados Unidos, ¿sabes? Entonces sí. Lo mismo, pero si no eres reconocido en Estados Unidos, pues en México menos. Nadie te lee, nadie te conoce, nadie pasa lo mismo, pero muy bien, ¿eh?
Du coup, elle dit que elle considère que Miguel a totalement raison, sauf que cet impérialisme, disons, dans son cas, se fait plutôt avec les États-Unis. Du coup, au Mexique, c'est pareil. Les écrivains ne sont pas reconnus tant que aux États-Unis, tant qu'ils ne sont pas d'abord passés par une reconnaissance de la part des États-Unis.
Et cette langue, cet espagnol du Mexique, cette langue est extrêmement plastique, elle absorbe beaucoup et est très, je crois, différente en fonction des classes sociales.
No creo que sea plástico, creo que es más como una piedra preciosa, porque cada lenguaje es así. Y pues sí, el español es hermoso, es modificable, maleable, es todo. Es belleza pura, porque tú puedes crear y puedes reinventar la lengua y un mexicano te va a entender y tal vez si un venezolano te va a entender. Entonces solo es, creo que sí, que cada lengua tiene su belleza, sus piedras tienen ahí el oro, pero hay que saber tratarlo, ¿no? Y para mí un buen tratamiento son las letras, porque es ahí donde puedes modificarlo, puedes reconstruirlo.
Il considère pas que sa langue soit plastique, mais plutôt comme une pierre précieuse finalement. Elle considère que l'espagnol est une langue magnifique, une beauté pure. D'une beauté pure, mais qu'évidemment c'est une langue assez malléable, modulable, que l'on peut facilement modifier. Bien que malgré cette modification, ces modifications possibles, ils se comprennent parfaitement entre eux. Par exemple, elle faisait le lien entre Mexique et Vénézuélien. Les Mexicains et les Vénézuéliens peuvent tout à fait se comprendre. Elle considère vraiment que chaque langue a sa beauté particulière.
On arrive déjà à la fin de cette rencontre. Ce livre, Gabacho Aroxilonen, je crois qu'il devait être beaucoup plus ample et que vous avez une suite. Les aventures de Liborio ne sont pas terminées.
Sí, bueno, es que yo construí una, pues era toda una columna vertebral, entonces la historia de Liborio, pero pues con este libro, con él me faltó tiempo, me faltó edad. Para terminarla. Ahorita esta pues puede ser como la cabeza y pues eso, estoy construyendo todo el cuerpo de libro, le falta, creo que a mí también me falta crecer, a los chicos de los personajes les falta crecer, es estar en constante aprendizaje todo el tiempo y creo que todos estos viajes, estar aquí en Manos, pues me llevo algo a México, algo que puedo compartir, algo que puedo pasar a la novela, porque al final pues somos esponjas y sí absorbemos todo.
Elle dit qu'elle a construit son livre comme si ça représentait finalement l'image d'un corps humain. Elle a construit une colonne vertébrale, elle a construit tout le corps finalement, mais ce Megabacho, dans ce cas-là, ça représenterait peut-être plutôt la tête. Et elle n'a pas fini, elle n'a pas eu le temps de elle est en processus d'écriture de la suite des aventures de Liborio. C'est pour ça qu'au début, son roman devait être plus ample, mais elle n'a pas eu le temps de tout finir. Mais elle considère aussi qu'elle-même, elle doit grandir, mûrir, que ses personnages aussi doivent grandir et mûrir avant de pouvoir présenter une suite à Gabacho. Et elle considère aussi que toutes ces expériences ici à Manosque tout ce qu'elle a vécu et ressenti ici à Manosque, ça va lui permettre aussi d'alimenter la suite de Gavacho. Elle a vécu des moments très agréables et qu'elle va certainement insérer dans sa suite, parce qu'elle considère aussi que nous sommes des éponges finalement, et que ça alimente énormément le processus d'écriture.
Miguel.
Et permettez-moi de vous dire que Aura tout à l'heure parlait très bien du public français. Et elle a fait beaucoup de voyages, elle était dans beaucoup de public, elle en parlait très bien par élégance. J'en dis pas plus, ça, si, mais laissez-moi vous dire qu'elle a tenu des discours. Vous rougirez.
Miguel, vous êtes actuellement pensionnaire de la Villa Médicis, vous faites l'amitié d'être là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire un mot de la direction dans laquelle vous allez sans trop dévoiler peut-être le roman?
Par rapport à la Villa Médicis?
Non.
Ah oui,
vos projets d'écriture.
Oui. Alors en effet, eh bien, l'idée ce serait... Mais d'ailleurs, Manosque, bon, certains dans la salle le savent, parce que moi j'ai lu les premières pages du prochain livre... au centre Jean Giono il y a quelques mois, et l'idée ce serait tout simplement le prochain livre de pouvoir parler de l'immigration française au Chili, et on va voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est vraiment un siècle d'une très belle migration de Français au Chili qui sont revenus sans cesse pour les guerres mondiales, et ce sont des Latino-Américains qui se sont battus dans les deux guerres mondiales ici en France et qui sont revenus pour continuer à avoir des enfants à 12 000 km de distance de l'autre bout du monde, tout en conservant les traditions, les coutumes, la langue française. Et peut-être, d'une certaine manière, parce qu'ils étaient loin, ils continuaient à participer au patrimoine culturel français avec une splendeur qu'ici, on ne le faisait plus en temps de guerre. Donc, ils sont importants, d'une certaine manière, pour la France, et ils sont essentiels pour le Chili.
On a peut-être le temps de prendre quelques questions dans le public. Oui, madame, il y a un micro qui va circuler.
Je veux juste demander si Gabacho veut dire quelque chose.
Alors, c'est intraduisible, c'est pour ça que Julia Charlevoix ne l'a pas traduit.
Je crois que vous le savez mieux que moi, mais c'est une parole avec laquelle nombraban los españoles a los franceses que emigraban a España, pero pues esta palabra también viajó a México y nosotros pues la transformamos y ahora le decimos a Gabacho, a aquella persona que es mexicana, que se va a Estados Unidos y que de repente regresa, pero con Spanglish, como con las costumbres un poco cambiadas. Entonces decimos, viene del Gabacho, o sea, viene del norte, o se va para el Gabacho, se va para el norte, ¿no?
Donc Gabacho, effectivement, avant ça vient de l'Occitan d'ailleurs, et avant c'était utilisé, en tout cas c'était la manière dont on désignait les Français qui migraient en Espagne, mais de manière assez péjorative d'ailleurs. Et actuellement ça a été réapproprié par le Mexique, et c'est plutôt pour parler du coup des Mexicains qui migrent aux États-Unis et qui reviennent au Mexique. Avec des grandes différences aussi bien culturelles que dans le langage, avec des Spanglish justement comme on peut rencontrer, mais c'est aussi la manière dont ils nomment le territoire des États-Unis. Par exemple, ils peuvent parfaitement dire il est parti à Gabacho, en sous-entendant aux États-Unis. Voilà.
Oui, moi j'ai lu le livre et je l'ai énormément aimé pour toutes les raisons que vous avez dites. Mais je voudrais juste souligner encore autre chose, c'est que j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour de Liberio pour... je ne sais plus qui. Oui, je l'ai trouvé romantique, mais en même temps je l'ai trouvé... je ne sais pas, pour moi c'est véritable amour, sa façon d'aimer. Et... Ouais, j'ai bien apprécié ça.
Pues en realidad fueron las partes de amor las que más trabajo me costaron escribir, porque también debía yo sentir cómo siente el personaje. Entonces, esas partes fueron más fuertes que los golpes de escribir.
Oui, pour elle, ça n'a pas été évident finalement d'écrire cette histoire d'amour. Ça fait partie un peu des passages les plus difficiles dans l'écriture pour elle. Ça a été plus difficile que d'écrire sur les coups ou sur les combats.
Une dernière question.
Oui, bonjour et merci à tous les quatre. Vous nous avez alléché avec la beauté de la langue espagnole. Moi, je ne suis pas du tout hispanophone, mais la traduction, la lecture, si vous en avez le temps, du premier chapitre du livre d'Aurélia que Miguel a lu si magnifiquement, nous emplirait sûrement de joie aussi au niveau de l'oreille.
Si, là maintenant, vous voulez dire ? Ah, là maintenant ? Ben, je ne sais pas.
Malheureusement, on y a pensé, mais on n'a pas le texte original.
Tu tienes un livre en espagnol ? Non, el tuyo en espagnol. El libro original, non, lo tiene. Eh bien, malheureusement on va vous l'envoyer par vidéo. On se donne le numéro de téléphone et je vous l'envoie.
Mais c'est un cacho.
Si, dans le point, elle en connaît une partie. Voilà, elle va le dire par cœur.
Je ne vais pas traduire.
A ver, eso. Y entonces se me ocurre, mientras los camejanes persiguen a la chivata hermosa para bulearla y chiflarle cosas sucias, que yo tengo otra vida al putearme a todos esos mexicanos. No, es un pequeño, es que no me lo sé de memoria. Bueno, un ratito.
On va s'arrêter là. Merci à tous. Je vous invite à retrouver Aura et Miguel pour une séance de signature. Merci pour votre attention.
Merci à toi, Sophie. Et merci à Sonia
pour la traduction.
Sonia. Amen.